La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Auditeurs, auditrices, bienvenue à cette première de La quotidienne pour cette nouvelle saison. Mon nom est Michel Cloutier, je suis votre animateur au cours de l'année en compagnie d'Izzy Lévesque. Bonjour Izzy.
Hey, bonjour. Et moi, je serai, je dirais, votre voix en tant qu'auditeur et auditrice qui connaissent peut-être un peu moins le monde agricole.
Exactement. Cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, recevoir des spécialistes de différents horizons. Je vous rappelle que l'émission La quotidienne n'est pas attachée à aucune institution ou union ou organisation. L'émission est pleinement indépendante et on invite des gens de tout horizon, que ce soit des gens de l'Institut Jean Garon, des gens du ministère de l'Agriculture, que ce soit des gens de l'UPA, que ce soit des gens de la vie agricole. On va avoir des gens de différents horizons qui vont être invités à venir au micro de La quotidienne pour discuter. L'émission est produite par Communication Zone Média en collaboration avec les productions de La Grande Allée où on a installé les studios pour pouvoir enregistrer cette émission. Et moi, durant tout au cours de la saison, j'aurai le rôle, si on veut, un petit peu de chef d'orchestre, de ramener nos invités parfois sur le droit chemin ou de leur faire respecter les temps qui nous sont alloués pour produire l'émission, parce qu'il va s'en dire pour les radiodiffuseurs, il faut entrer dans la case où on sera cédulé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, évidemment, de temps en temps, ce sera d'essayer de vulgariser les propos qui vous seront présentés. Toi, Izzy, tu vas te faire un peu comme l'œil du public, c'est-à-dire tu vas te mettre un peu dans la peau de l'auditeur qui écoute. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous écoutent qui vont savoir
parfaitement
de quoi nos invités parlent, mais parfois l'auditeur, lui, va se poser des questions à dire « OK, c'est quoi ça? » C'est quoi cette patente-là?
Oui, tout à fait. Puis ce qui est extraordinaire, et c'est que je sors des sentiers battus parce que je ne connais c'est que je ne connais pas du tout le monde agricole. Alors, ça va être facile pour moi de me questionner tout au long de la saison.
C'est quoi la gestion de l'offre?
Oui, et c'est quoi?
C'est quoi la gestion de l'offre? Est-ce que tu es capable de m'expliquer ça, Izzy? C'est le genre de question que tu vas poser, tu vas nous demander c'est quoi.
Exactement. Puis il y a peut-être des termes aussi qui sont utilisés dans le monde agricole que je vais démystifier.
Et justement, pour les auditeurs, la gestion de l'offre, c'est le système présentement qui s'applique au monde du lait, qui détermine combien de production doit être fait, etc., etc. Un peu comme dans le sirop d'érable, on a un peu un système qui se ressemble. On aura l'occasion peut-être de démystifier ça un petit peu plus tard durant la saison.
Mais on va avoir du fun.
Premier invité cette semaine, l'éditeur de La Vie agricole qui sera évidemment collaborateur régulier, Yannick Patelli. Bonjour Yannick.
Oui, bonjour Michel et bonjour Izzy. On est content de relancer une nouvelle saison de La quotidienne. Juste pour un petit rappel, La quotidienne, ça a démarré pendant la pandémie en mars 2020. Tout le monde était chez soi, le studio était fermé, on se demandait ce qu'on allait faire de notre vie.
Comme
tout le monde. On a lancé l'idée de faire une émission sur Zoom entre les deux points de presse des premiers ministres et ça a marché. Il y avait du monde qui commençait à nous suivre et après on s'est dit faut perpétuer cette émission. Parce qu'à la base, vous le savez, La Vie agricole, c'est un journal média, qui c'est média papier, un journal papier, puis journal internet, etc. Mais on avait fait un studio ici, on avait fait des émissions de télé, des télé-web, mais on n'avait pas fait de radio encore. Nous, c'était un peu nouveau pour nous. Et quand on faisait du Zoom en mars 2020, on pensait pas non plus faire de la radio. Mais après, en échangeant avec Michel, et ça, on s'est quand même dit, pourquoi pas essayer quelque chose à Portneuf. Portneuf a été effectivement le premier essai de La quotidienne radio, et ça a développé quelque chose d'intéressant. Je pense dans l'année 2022, on avait 13 radios partenaires à travers le Québec qui reprenaient l'émission. On espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous écouter.
Mais quand même, est-ce que tu pensais au départ, justement, quand tu faisais les Zooms, est-ce que tu pensais que ça se rendrait aussi loin?
Non, pas du tout, parce que en fait, d'abord, les Zooms, on les a fait vraiment par total hasard. T'sais, au début, on a commencé des Zooms en disant, on va parler de la situation de chacun. Donc moi, j'ai appelé des producteurs, puis j'ai appelé des gens du ministère, puis les gens de l'Institut, puis on parlait de comment chacun vivait ça, puis tout le monde nous parlait en fonction de sa production, que ce que ça avait comme impact. Le premier sujet était assez facile. Pendant 3-4 mois, le seul sujet, c'était la COVID. On se parlait de la COVID, chacun dans son secteur. Mais après, on a évolué. En fait, quand on a décidé qu'on revenait ici en studio, là, on a dit, La quotidienne, c'est plus que l'agriculture, c'est aussi l'agroalimentaire. Donc là, on a commencé à travailler sur des thèmes d'émission. On a rejoint aussi des gens du monde agroalimentaire. Et là, ça a complètement changé la dynamique, à tel point que ça a développé des choses. On a fait des missions à travers ça en France, avec l'Institut Jean Garon, avec les céréales du Québec. On vient de faire cet été une campagne avec Première Moisson d'information sur la filière du blé. En fait, c'est boule de neige. Hein. C'est,
oui, tout à fait.
C'est comme un effet boule de neige. Mais ce que je trouve intéressant dans ce qui s'en vient pour cette nouvelle saison, c'est la nouvelle formule co-animation Michel et Izzy. Parce qu'effectivement, en mettant Izzy dans la position de « je ne connais rien », je trouve ça intéressant parce que ouais, ça veut dire qu'il y a...
C'est rare que je suis heureuse que quelqu'un me dise que je connais rien.
Et bonne là-dedans.
Oui.
ça permet en fait de positionner l'auditeur effectivement d'une position peut-être plus facile pour lui. C'est-à-dire que je vais écouter l'émission. Oui, il y a des choses un peu compliquées parfois, mais Izzy va nous l'expliquer.
Oui, c'est ça.
À la base, quand Yannick nous avait approché avec l'émission, c'était surtout de souligner que cette émission-là doit servir d'une façon à vulgariser justement le monde agricole pour le grand public en même temps et tout en étant une source d'information, de discussion, d'échange pour les gens du monde de l'agriculture. D'ailleurs, on va d'entrée de jeu tout de suite parler de cet été. Il y a eu plusieurs événements du côté de la vie agricole. Vous êtes allé entre autres du côté de Saint-Pie où il y a une grande présentation, quelque chose d'assez unique au Québec, Yannick. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, c'est assez unique parce que en fait, tout ça est ça découle en fait du travail qu'on fait depuis 2 ans avec les céréaliers du Québec pour promouvoir le blé raisonné, donc le blé, je dirais, éco-responsable, l'agriculture durable. Ça découle de la mission qu'on a fait en France avec eux pour les rencontrer, les moulins, les fabricants de farine en France, etc. Puis en France, Dany s'était dit, j'aimerais ça faire une grosse activité à la ferme d'Arog, donc chez lui, avec à la fois des Français et des Américains, réunir des producteurs, leur parler des grandes cultures. Donc parler des grandes cultures, ça veut dire parler de la culture du maïs, du soya et du blé. Alors maïs et soya, bon, il a invité des Américains, normal. Il a invité des Américains qui sont des grandes vedettes. On en parlera dans les prochaines émissions.
Oui, c'est ça, parce que c'était un terme justement, grande vedette, là, que moi je sais quoi.
Des grandes vedettes américaines du maïs, c'est quoi? Ben, c'est des gars qui font du 36-38 tonnes à l'hectare, ce qui est assez impressionnant. Donc ça, ces gars-là, on les a rencontrés, Chad Anderson, David Hula, ils étaient présents. Ça a attiré 300 personnes.
Et à comparer au Québec, ils font du 37-38 tonnes. Au Québec, c'est quoi? C'est...
Bon, on disait à peu près quand on fait du 6-7 tonnes à l'hectare. Okay.
On peut vraiment de vedette.
Puis, à travers cette journée-là, l'intérêt derrière le maïs soya, parce que ce qui est important pour les céréaliers du Québec et ce qui est important pour l'agriculture, je pense, c'est qu'il y a une rotation des terres, une rotation des cultures, et on ne fait pas vraiment de rotation au Québec, parce que, ça on en parlera au cours de la saison aussi, comme on a beaucoup produit de maïs pour nourrir beaucoup de cochons, en fait, on n'a pas beaucoup diversifié nos variétés de cultures. Et là, aujourd'hui, on se rend compte, dans la campagne qu'on fait depuis 2 ans avec première moisson, céréaliers, etc., que le blé, pour notre pain, le blé panifiable, on appelle, en fait, il vient beaucoup de l'Ouest canadien. Et il y a des gens, comme Première Moisson, qui aimeraient bien que le blé vienne plus du Québec.
D'ici, ouais.
Donc là, il faut relancer une filière du blé. Et là, Dany s'est dit, bah, regarde, on va faire quelque chose. On va aussi inviter...
Et là, Dany, dans tout ça, dans l'équation, c'est qui, Dany?
Dany, c'est un producteur de grande culture, président des céréaliers du Québec. Ah. Les céréaliers du Québec, il faut comprendre que c'est une association qui regroupe pas forcément le plus de producteurs de grande culture, mais qui regroupe ceux qui ont le plus de superficie en terre de grande culture. Donc, ils sont pas forcément, parce qu'il y a deux choses. Il y a les PGQ, producteurs de grains du Québec, qui sont des producteurs de grande culture aussi, qui sont filiales de l'UPA, en fait, direct. Céréaliers du Québec, c'est une autre association reconnus par le MAPAC, puisqu'ils sont subventionnés pour leur campagne de promotion du blé raisonné, mais qui n'est pas dans la filière classique de l'UPA, on va dire. Ça, c'est une vieille histoire. Mais au final, ce que je veux dire, c'est que Dany Messier organise cette rencontre, dit, moi, je vais réunir peut-être 100, 150, 200 personnes si je suis chanceux, parce que ça va plaire. On part le bal, on lance le truc, finalement, on se retrouve avec près de 300 personnes dans le hangar, parce que les vedettes américaines, tout le monde veut les voir, puis tout le monde s'interroge un peu, c'est quoi la filière du blé, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, est-ce qu'un Français peut nous expliquer pourquoi ça marche en France et pas ici? Et on a été surpris parce que même Mathieu Baudet, a vraiment intéressé beaucoup. Il y a eu des ateliers dans l'après-midi, il y avait 40 personnes en rotation à ces ateliers. À chaque fois, toutes les demi-heures, il y avait 40 personnes qui venaient l'écouter. Donc, on s'est rendu compte que le succès de la rencontre, c'est à la fois d'avoir pu réunir 300 personnes pour parler et du maïs, et du soya, et du blé, ce que personne, je pense, n'a fait depuis longtemps au Québec.
C'est là. D'ailleurs, toi, tu as fait une entrevue avec lui.
Une entrevue avec Dany, qu'on peut écouter, effectivement.
On va l'écouter tout de suite. Eh bien voilà, on va faire une petite pause, puis on reviendra avec les commentaires sur l'entrevue qu'Yannick a fait avec Danny.
La saison 2 de La Vie agricole à MaTV, c'est pour bientôt. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver MaTV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boisvin, la fromagerie Les Ancêtres, la fromagerie La Station, la fromagerie Les Basques, la laiterie Charlevoix et de Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Moissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondu et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de La Vie agricole.
Nous voilà de retour à la quotidienne et juste avant la pause, on entendait Yannick cette entrevue que tu as fait avec avec Danny. Qu'est-ce que tu en retiens? Je pense que tu es allé chercher aussi des commentaires de l'Institut Jean Garon.
Oui, ben en fait, Danny nous expliquait un peu le concept de comment s'est créée cette journée et puis le succès que ça a été. Mais je pense que c'est intéressant, c'est aussi j'ai échangé en fait avec Michel Saint-Pierre, coprésident de l'Institut Jean Garon. Puis Michel Saint-Pierre, vous le connaissez, ça fait quelques années qu'il co-anime les quotidiennes avec moi. Et il va être notre chroniqueur un peu spécialiste de nos émissions parce que autant on va recevoir beaucoup d'invités au cours de la saison, Michel Saint-Pierre va être là à toutes mes quotidiennes de l'automne. Donc on va écouter, Michel a écouté l'entrevue de Danny et il a quelques commentaires comme président, co-président de l'Institut Jean Garon.
Excellent, on va aller écouter ses commentaires.
Ouais, ce que je retiens le plus, c'est qu'ayant vécu la période d'implantation du maïs grain et du soya, Danny dit il faut apprivoiser. Mais effectivement, il y a tout un écart et toute une mer entre les rendements qu'ils ont eus dans les années, mettons, 70, 80 même, et aujourd'hui. Ils ont apprivoisé quoi? Beaucoup les semences hybrides. Il y a eu des essais nombreux. Tout le monde a essayé de maximiser le rendement, mais la période de croissance avec les unités thermiques ne matchait pas. C'était difficile ces années-là. Et il y a aussi eu, avant aussi, une surutilisation des sols pour le maïs avant l'implantation du soya. Ça aussi, c'est une autre histoire. Écoute, on parlait de compactage des sols parce qu'on faisait maïs sur maïs.
Parce que quand on dit, effectivement, il faut faire de la rotation des cultures maïs-soya-blé, ouais. C'est-à-dire que ce que tu nous dis, c'est qu'avant qu'il y ait maïs-soya, il y avait juste le maïs.
Il y a eu juste le maïs pendant, mettons, 7-8 ans. Et les gens, évidemment, ils trouvaient malgré tout un rendement et surtout qu'il y avait une assurance stabilisation là, qui était là. Alors, résultat, il y avait un rendement que ça. Donc, on ne se posait pas trop de questions, sauf qu'on constatait que les sols étaient tout à fait compactés, maganés, manque de matière organique, certainement. Là, le soya est arrivé pratiquement au secours de cette situation-là. Mais tout ça était, et c'est ça le mot, l'apprentissage de ça. Alors, ce que Danny envoie comme message, c'est on ne fera pas ça du jour au lendemain, on ne sera pas des champions du jour au lendemain, mais il faut commencer. Il faut développer les techniques qui sont propres à nos sols, à notre réalité, au niveau également unité thermique. Puis on va avoir des bons résultats dans quelques années. Donc c'était quand même un signal, je trouve, intéressant que Danny, un peu de sagesse de quelqu'un qui a passé par là il y a pas mal d'années.
Ouais. Puis quand il dit installer le blé, c'est ça qu'il veut dire, en fait. C'est le faire sur plusieurs années. C'est aussi, j'imagine, une réflexion pour les décideurs, parce que bon, tu as été sous-ministre pendant 40 ans. En tout cas, sous-ministre MAPAC, mais aussi
Longtemps,
président de la financière agricole pendant plusieurs décennies, on va dire. Et
tu le sais, en fait, que les producteurs, en fait, ils agissent aussi en fonction des rendements qu'ils ont, ce qui est normal. Oui. Donc, en fait, ça, ce qui passe comme message, Dany, j'imagine, c'est un peu un soutien.
Vous soutenez, c'est aussi
vous,
un
si
soutien.
Si vous ne soutenez pas le blé, on ne viendra pas dans le blé.
Un soutien de transition. Et puis, l'idée existe ailleurs. Là, le concept de soutenir pendant une période de transition, ça existe. Tu n'es pas obligé d'avoir un programme à long terme comme la SRA l'a été pendant 40 ans. Tu n'es pas obligé d'avoir ça. Tu peux quand même fixer des choses, dire on va établir cette chose. Ça serait hautement rentable au niveau gouvernemental, puis aussi au niveau de notre garde-manger, là, parce que, tu sais, faut pas s'illusionner. On ne fait pas grand-chose pour notre garde-manger. On a beau appeler ça bon produit pour notre garde-manger, on produit beaucoup plus pour nourrir des porcs qui s'en vont pour les deux tiers minimalement qui s'en vont à l'extérieur. Alors, c'est pas tout à fait le garde-manger.
Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité justement actuellement, puisqu'il y a une crise dans le porc et qu'on produit moins de porc, donc on a besoin de moins de maïs? Est-ce qu'on ne peut pas récupérer ces terres pour faire du blé?
Tout à fait. Alors, il y a une relation directe entre porc et maïs-grains qu'on produit. Donc, il faudrait penser que si on réduit la taille de notre production de porc là, pour l'amener à un niveau de marché qui est durable, bien, il va y avoir des terres, de très, très bonnes terres, celles des basses terres de la vallée du Saint-Laurent, qui vont être disponibles pour ça. Alors, puis il y a déjà des gens qui le font, soit dit en passant. Là, hier, je parlais à un producteur émérite, on peut dire, un grand producteur, qui le fait, lui, depuis quelques temps, la production de blé.
Il y a aussi, je ne sais pas si Michel, Lizzie, vous avez entendu ça aussi, mais dans l'entrevue avec Dany, quand on parle de l'inflation, en fait, Dany, il parle qu'il faut continuer à produire, en fait, parce qu'il y a une demande des consommateurs. C'est toujours la relation, en fait, quand on parle d'agriculture durable, on entend souvent le discours de l'agriculture durable, c'est qu'il faut faire moins. On a souvent entendu ça. Mais là, c'est un discours, on a un double discours, là, parce que là, c'est l'agriculture durable, mais il faut faire plus.
Voilà, ça, c'est l'autre aspect de son message. C'est, l'agriculture durable, ça ne veut pas dire, là, qu'on se ramène, là, dire, un peu avec une petite pitance, là. Non. Mais l'agriculture durable, c'est que le message qui a passé dans le passé, c'était beaucoup plus ça, genre, réduisons la taille de tout, donc ramenons des petites machines, et puis bon.
Eh bien, voilà. Et Michel Saint-Pierre, d'ailleurs, qu'on entendra dans les quotidiennes également de l'Institut qui auront lieu au cours des prochains jours, des prochaines semaines.
Oui, tout à fait. Les quotidiennes de l'Institut vont se poursuivre également, tout comme les quotidiennes de la vie agricole. Michel est toujours dans les quotidiennes de la vie agricole, mais effectivement, il intervient avec Simon Bégin et Guy de Bailleul dans les deux quotidiennes rattachées à l'Institut qu'ils appellent l'agriculture de demain.
Excellent. On va donc suivre ça attentivement. Évidemment, ben, à chaque jour, comme ça, c'est la quotidienne qui vous sera présentée. Tout dépendant de la station où vous l'écoutez, les heures peuvent varier. Vous pouvez vous informer auprès de votre radiodiffuseur. Ben, merci beaucoup, Izzy, pour cette première. C'est bien passé.
Ben oui, quand même, j'ai survécu. Alors, ça devrait bien aller pour le reste de la saison.
Ça va bien aller pour le reste de la saison.
Si on peut rajouter juste un petit mot à la fin, en fait, puisqu'on a fait beaucoup d'événements depuis quelques mois avec Première Moisson, on continue dans la thématique de l'événement et vous allez pouvoir suivre dans les prochaines semaines, le 14 octobre et le 4 novembre, il va y avoir des journées agricoles à Limoilou. Oui. Et ça, on en reparlera parce que Choc va y être associé. On est content d'amener l'agriculture en ville.
Excellent. Et on va également, dans les prochaines semaines, revenir sur d'autres événements qui se sont passés durant l'été. Il y avait un événement, entre autres, à Baie-Saint-Paul, qui va être important de souligner.
Culture Pain,
qui a eu des entrevues. Puis on reviendra sur ces grands événements qui ont marqué la période estivale et d'autres qui marqueront l'automne. Alors, merci d'avoir été là. Mon ami Michel Cloutier, j'étais en compagnie d'Izzy Lévesque. C'était cette première de la quotidienne. À demain.